Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, et nous allons lire le chapitre en entier. Apocalypse 18, donc l'apôtre Jean écrit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville ? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, un très rapide résumé pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes donc en train de faire cette série sur le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu que le livre de l'Apocalypse est divisé en 7 sections. Chaque section couvre l'histoire du monde entre l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire, mais avec une différence. C'est-à-dire que plus on avance, plus le curseur va se déplacer vers les choses de la fin. C'est-à-dire qu'on a davantage de détails sur les choses de la fin dans cette section, la 6e, que l'on a dans la 1ère. Plus on avance, plus il y a de détails sur les choses de la fin. Et donc nous sommes dans la 6e section. Et nous avons vu que le monde est décrit comme Babylone, Babylone la grande, Babylone la prostituée, qui est là pour séduire, habillée pour séduire, mais dans le but de détruire les hommes. Et quand on parle du monde, ce n'est pas le monde créé, parce que le monde créé, on peut encore voir aujourd'hui le génie de Dieu à l'œuvre dans ses créatures. C'est pour ça qu'on peut apprécier de belles choses, même si elles ne sont pas faites par des chrétiens. Mais elles sont belles, elles sont dignes d'être appréciées. Non, quand on parle du monde ici, c'est le système du monde, c'est ce qui anime ce monde, sa rébellion contre Dieu, sa désobéissance à Dieu. C'est ce monde-là qui est décrit comme la prostituée. Et ce monde a fait alliance avec la bête, quelle qu'elle soit tout au long de l'histoire, des hommes qui se sont élevés, mais ultimement, bien sûr, avec l'adversaire, avec Satan lui-même. Mais sa défaite est proche. Sa défaite ne saurait tarder. Et nous avons vu, donc, au début du chapitre 18, la vision de la chute de Babylone. Premier mot sur la feuille. La chute de Babylone, la chute de ce monde, et l'appel qui est lancé au peuple de Dieu, sortez, sortez du milieu d'elle. Et nous avons dit, entre autres, que cela ne veut pas dire aller se réfugier dans un monastère, parce que là, on emmène notre péché avec nous. Non, il s'agit bien sûr de rester, de vivre dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous ne devons pas perdre de vue que ce monde court à sa destruction, à son jugement. Et dans le reste du chapitre, donc, que nous voulons voir ce matin à partir du verset 9, Jean, en parlant de la chute de Babylone, utilise le langage de l'Ancien Testament. Et en particulier, au début, il utilise le langage d'un passage que l'on trouve dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel regarde, annonce la destruction de la ville de Tyr. Et voici ce qu'il dit en Ézéchiel chapitre 27, les versets 26 et suivants. « Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux, un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés, tes marchandises, tes mariniers, tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous les hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront. Et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire, les mariniers, tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi, ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi. Qui était comme Tyr ? Comme cette ville détruite au milieu de la mer. Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. » Et c'est le même langage. C'est le même langage ici. Jean, en Apocalypse 18, regarde vers l'avenir, regarde vers la fin de l'histoire. Quand Dieu va juger ce monde et ce système babylonien, si on peut l'appeler ainsi, le système babylonien de ce monde, et ces paroles reprennent, adaptent les paroles d'Ézéchiel 27. On trouve la lamentation de rois, de marchands, de marins, ceux qui ont fait le commerce, ceux qui ont fait alliance avec le monde, avec ce monde qui arrive maintenant à sa fin. Et cette scène est en contraste frappant avec la réjouissance que l'on verra plus tard au ciel, la réjouissance du peuple de Dieu. Mais ça, c'est réservé pour plus tard. Donc quand Jean écrit ce livre de l'Apocalypse, la ville terrestre de Babylone, nous l'avons dit, avait déjà disparu depuis longtemps. Et Babylone, donc, est le symbole de la puissance tyrannique de ce monde. Symbole repris par la ville de Rome. Rome était, à l'époque de Jean, au 1er siècle, la capitale puissante et décadente. L'Empire romain dominait le monde au 1er siècle. Mais Rome elle-même est un symbole. D'autres empires ont suivi depuis. Et tout cela symbolise le règne satanique de ce monde laïque, de ce monde qui s'oppose de manière arrogante à Dieu. Et on voit ici donc tous ceux qui ont festoyé autour des tables de ce monde, qui pleurent la destruction de Babylone. Et donc, il y a deux grandes parties dans ce passage, deux perspectives au sujet de la chute de Babylone. La première perspective, le premier point, ceux qui pleurent. Il y a plusieurs groupes. Le premier à pleurer, les premiers à pleurer la chute de Babylone sont, en verset 9, les rois de la terre, deuxième mot sur la feuille. Alors, il ne s'agit pas ici des empereurs romains. Mais il s'agit ici de ceux qui ont été à la tête des provinces de l'Empire. Ceux qui dépendaient de l'Empire pour leur puissance, pour leur prestige. Ceux, par exemple, qui étaient à la tête de l'Empire de la province de l'Asie. Et rappelez-vous, Jean est en train d'écrire aux églises qui sont dans la province romaine d'Asie. Et ces rois avaient adopté la corruption, la brutalité de l'homme, de Rome, parce qu'ils voulaient le pouvoir. Et Rome leur donnait ce pouvoir. Rome leur accordait ce pouvoir. Ils ont commis l'adultère avec Rome, avec la prostituée. Ils se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe. C'est le symbole de tout ce plaisir idolâtre, ce plaisir pécheur. Et maintenant, ces hommes, ces rois pleurent quand ils voient la fumée de son embrasement. Mais notez le sujet de leur lamentation. Ils pleurent la grandeur et la force. Malheur, verset 10. Malheur, la grande ville, Babylone, la puissante. Et les rois de ce monde ne se soucient que de cela. Grandeur et puissance. Et avec la chute de Babylone, les rois ne pleurent pas pour la ville elle-même, mais ils pleurent le fait qu'ils ont perdu. Ils ont perdu leur relation privilégiée avec Babylone, avec ce monde. Ils ont perdu leur prestige. C'est ça qu'ils pleurent. Les rois de la terre. Le deuxième groupe à pleurer sont les marchands de la terre. Troisième mot sur la feuille. Les marchands de la terre pleurent parce qu'ils ont perdu le marché, ils ont perdu l'occasion de faire des profits. Verset 11, ils pleurent et sont dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ils voient leur gagne-pain, nous dit un commentateur, ils voient leur but dans la vie disparaître devant leurs yeux. Tout ce qu'ils avaient considéré comme ayant de la valeur a maintenant disparu. Alors, les historiens, surtout les plus anciens, ont beaucoup commenté sur la richesse de Rome et les échanges commerciaux qui se passaient à Rome. Beaucoup aujourd'hui essayent de comparer le matérialisme de la société actuelle avec celle de la Rome antique, mais en fait, il n'y a pas de comparaison possible. Les habitants de Rome, surtout les aristocrates de Rome, vivaient dans une richesse incroyable, dans une opulence, mais stupéfiante. Les richesses du monde, quatrième sur la feuille, les richesses du monde antique étaient littéralement déversées dans les bras de Rome. Plusieurs sources, par exemple, dans le Talmud juif, c'est le livre qui rassemble les discussions entre les rabbins sur toutes sortes de sujets. Mais voilà ce qu'on peut lire. 10 mesures de richesse sont tombées sur la terre et Rome en a rassemblé 9. 90%. 90% des richesses étaient à Rome. Aristote, entre 384 et 322 avant Jésus-Christ, écrit ceci, pour découvrir toutes les richesses du monde, il y avait deux solutions. Soit parcourir le monde, soit aller à Rome. Deux solutions pour découvrir toutes les richesses du monde. Suétone, un historien romain entre le 1er et le 2e siècle, écrit ceci au sujet d'un empereur, l'empereur Caligula. Il dit « Il surpassa en prodigalité tout ce qu'on avait vu jusqu'à lui, inventeur de nouveaux bains, ainsi que de repas et de messes extraordinaires. Il se faisait parfumer d'essence chaude et froide, avalait les perles les plus précieuses après les avoir dissoutes dans le vinaigre, et servait à ses convives des pains et des viandes en or. » Et il avait souvent à la bouche cet adage « Il faut être économe ou vivre en César. » Suétone. L'empereur Néron, on dit de lui qu'il ne portait jamais deux fois le même habit et qu'il ne voyageait sans jamais, et qu'il voyageait en étant accompagné d'un millier de chariots et que les fers aux sabots de ses mules étaient en argent. Mais voilà, tout cet étalage de richesse, de faste, quand on apprend cela, on n'est pas surpris par la liste que l'on trouve ici dans Apocalypse 18, versets 12 et 13. La cargaison dont les marchands pleurent la perte, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de bois, toute espèce d'objet en d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, en cannelle, aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'hommes. Et l'impression générale, en lisant cela, et surtout si vous étiez au 1er siècle, que le livre de l'Apocalypse vous était lu, en entendant cette liste, l'impression générale, c'est de se dire, non mais ça c'est le luxe. Je ne pourrais jamais me payer ce genre de choses. Ce sont des choses... Non, c'est trop, trop grand. Ça me dépasse. Je n'ai pas les moyens pour ça. Sans aller dans les détails, on peut quand même dégager certaines catégories. Il y a, bien sûr, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ça, ce sont les richesses qu'on peut manipuler. Il y a ensuite les tissus coûteux, les teintures rares. Rome importait la soie de Chine, c'était très coûteux. Mais on lit que des régiments entiers étaient habillés de soie. Rome achetait des teintures rares, ça impliquait énormément de travail. La teinture pourpre, par exemple, est issue d'un coquillage, et c'est une goutte à la fois. Et les Romains, surtout l'aristocratie romaine, s'habillaient de vêtements toujours plus coûteux. Il y a les bois de senteur, les objets d'ivoire pour les meubles, le marbre, pour leur construction. L'empereur Auguste, par exemple, est connu pour avoir dit ceci: j'ai trouvé Rome en briques, je l'ai quittée en marbre. Rome fait d'énormes efforts pour faire venir le meilleur du monde dans la cité. Bien sûr, les épices pour ajouter des nouvelles saveurs, faire plaisir au sens. Puis la liste se termine avec les corps et les âmes d'hommes. Et là, on parle d'esclaves. Mais on parle de corps. Et ça montre l'attitude d'irrévérence, le mépris pour la vie humaine. Les Romains avaient peu de considération pour la dignité humaine, pour l'esclave. Ces âmes n'étaient que des possessions, comme le reste d'ailleurs, et pouvaient être utilisées ou maltraitées par les propriétaires. Un commentateur nous dit que le commerce de la chair humaine est la dernière des importations de Babylone, la culmination d'une culture décadente dans sa poursuite impitoyable du plaisir, quel que soit le coût pour les autres. Et ça devrait nous rappeler quelque chose. Ça devrait nous rappeler quelque chose. Une poursuite impitoyable du plaisir et de la richesse, même si ça fait mal à quelqu'un d'autre. On voit ça partout. On voit ça partout dans notre société. Les rois de la terre avaient aimé le pouvoir, les marchands avaient aimé la splendeur et le luxe. Le verset 14 nous dit « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. » Ils ont tout perdu, cinquième mot sur la feuille. Ils ont tout perdu. Et les choses, toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Verset 16 décrit la ville comme superbement belle, comme habillée de vêtements les plus attirants, parée des bijoux les plus précieux, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais elle est tombée, elle perd tout. Et devant le grand juge, au jour du jugement, la ville, la prostituée, est vide et nue. Les troisièmes à pleurer sont les marchands de la mer, les pilotes, certaines versions ont les capitaines, les marins, sixième mot sur la feuille. Les marins qui transportaient cette cargaison, versets 17 et 18, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils voient le port où ils se sont enrichis, où ils ont pu faire commerce. Ils voient ce port partir en fumée et tous leurs espoirs d'enrichissement disparaissent. Ils se jettent la poussière sur la tête comme un symbole de deuil. Les marins pleurent tout simplement le fait de ne plus pouvoir gagner de l'argent. Les rois ont pleuré leur perte de prestige. Les marchands ont pleuré leur perte de luxe. Les marchands de la mer, les marins pleurent tout simplement le fait de ne plus pouvoir faire du profit, gagner de l'argent. Il n'y a plus moyen de s'enrichir. Tout cela, bien sûr, c'est le contraire du conseil que le Seigneur Jésus-Christ a donné. En Matthieu 7, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces personnes n'ont pas suivi cette exhortation. Et ils pleurent la perte des richesses sur lesquelles ils comptaient. Et si nous nous donnons entièrement aux choses de ce monde, aux plaisirs de ce monde, aux richesses de ce monde, à l'argent, au pouvoir, soyons assurés qu'un jour nous allons les perdre. Tout cela va disparaître, c'est une certitude. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est offensé, septième mot sur la feuille. Il est offensé par toute idolâtrie. Tout ce qui prend sa place, Tout ce qui prend la première place dans le cœur de l'homme, à la place, à sa place, à la place de Dieu, tout cela est une idolâtrie. Et Dieu est offensé par une telle idolâtrie. Et il va veiller que toute idolâtrie, un jour, prenne fin. Mais il y a deux choses à souligner, en particulier au sujet de ces lamentations. Que ce soit celle du roi, des marchands ou des marins. La première chose à remarquer, c'est de voir que chaque groupe de personnes qui pleure sa perte reste à une certaine distance à cause de leur peur. Verset 10, par exemple, « Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront. » Et on voit la même chose au verset 15 et au verset 17. Et en fait, cette lamentation est focalisée sur eux-mêmes. Ce qui contrarie ces personnes, c'est ce qu'ils perdent, huitième mot sur la feuille. Ce qui contrarie ces personnes, c'est ce qu'ils perdent. Ils ne sont pas contrariés pour Babylone ou pour Rome ou pour les habitants de ces villes, alors que leurs amis sont dans cette ville. Ils ne font pas aucun effort pour aller aider, pour aller tendre la main aux habitants de Babylone. Ils ne vont pas dire, ah ben, nos amis sont encore là, allons les aider. Non, ils ne font rien. Ce qui les contrarie, c'est ce qu'ils perdent, eux. Et cela nous montre que plus nous devenons comme le monde, moins nous sommes capables d'avoir des choses importantes comme l'amitié, la loyauté, la fidélité, des choses qui comptent réellement. Si on se donne au plaisir, à la recherche du plaisir de ce monde, ou au matérialisme, aux richesses de ce monde, il arrive un moment où on n'aura que ces choses. Et on n'aura plus la capacité de bâtir et de garder des relations d'amitié, des relations fidèles. C'est une des lois de la vie. Si les personnes placent tout leur bonheur dans les choses matérielles, elles passent à côté des choses plus grandes, l'amour et l'amitié. Même en tant que chrétiens, nous connaissons des situations différentes tout au long de notre vie. Parfois, nous avons des biens, nous avons des richesses, parfois, nous en avons moins. Mais si nous sommes en Christ, nous avons des relations réelles, durables, solides. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme ami suprême, cet ami par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous sommes réellement et vraiment riches. En fait, ces gens qui se lamentent parce qu'ils voient Babylone tomber et être jugée, en réalité, ces gens étaient pauvres. Ils avaient peut-être les biens matériels, mais ils n'avaient rien qui pouvait satisfaire les besoins de l'âme. Un exemple assez frappant. Un homme d'affaires américain du nom de Jack Welch était président de la compagnie General Electric de 1981 à 2001, nommé manager du siècle en 1999. En 2001, il prend sa retraite. Avec ce qui est sans doute encore aujourd'hui la plus grande indemnité versée à un patron, 417 millions de dollars. Et la société General Electric avait augmenté sa valeur de 4000%. Et un journaliste est venu le voir, il lui a posé la question, il lui a dit, mais quel est votre but dans la vie maintenant? Maintenant que vous êtes à la retraite, quel est le but dans votre vie? Et voilà ce que Jack Welch dit. J'ai pris cette résolution pour le reste de ma vie, que jamais mes lèvres ne toucheraient un verre de vin qui coûterait moins de 1000 dollars. Voilà sa résolution. Il a les biens matériels, il a l'argent. Mais c'est sa seule résolution. En fait, il est pauvre. Tout ça va disparaître. Tout ça, ça va disparaître. Un jour, il va mourir. Un jour, il va se tenir devant le juge, le Dieu juge, créateur du monde et juge de ce monde. Qu'est-ce qu'il a? Il est pauvre. Veillons à ne pas suivre cet exemple. Mais rappelons-nous de ce qui compte réellement, l'amitié, l'amour, la communion fraternelle au sein d'une Église. Oui, nous sommes pécheurs, mais en Christ, nous avons des relations qui sont ancrées en Christ. Des relations qui durent, des relations qui sont solides. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons une relation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Son Esprit nous habite. Il nous amène à considérer, il nous apprend à sa parole. Voilà les vraies richesses. Voilà des richesses que le monde ne peut pas nous enlever. Juste une remarque, il ne faut pas oublier que cette vision, elle est symbolique. Et cette idée de se tenir à distance du jugement, simplement pour souligner ce point. Parce que au jour du jugement, final, au retour du Seigneur Jésus-Christ, personne ne se tiendra à distance. Le seul moyen d'échapper à ce jugement, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ ne passeront pas en jugement. Le seul moyen d'éviter ce jugement, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose à remarquer, c'est la rapidité, neuvième mot sur la feuille, la rapidité et la soudaineté du jugement. Verset 10, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et tous les empires idolâtres, toutes les grandes villes se sont vantées pour durer pour toujours. Rome est décrite comme la ville éternelle. L'Allemagne nazie, par exemple, était décrite comme le nouveau royaume qui devait durer 1000 ans, le nouveau millénaire. Il y a toujours ces prétentions que les uns et les autres vont durer éternellement. Mais quand la patience de Dieu arrive à son terme, quand l'heure, son heure vient pour juger, le jugement tombe très vite. Et ça, c'est aussi vrai dans les vies personnelles. Dans les vies individuelles, les gens se moquent de Dieu, ils fanfaronnent, ils méprisent Dieu. Le monde vit, on voit des personnes qui vivent des vies sans tenir compte de Dieu, et puis soudainement, tout s'écroule. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été réconciliés avec Dieu, n'ont pas Dieu pour les soutenir dans sa grâce. Et on a une image donc de ce qui va se passer à la fin de l'histoire. Oui, tout au long de l'histoire, Dieu juge les nations, Dieu juge les villes. Il a jugé Babylone, il a jugé Rome, il juge l'Occident, païen et laïque. À la fin, il jugera le monde entier, tout ce système babylonien du monde, en une seule heure. C'est rapide, c'est soudain. Et quel est le message alors face à cela? Le message est celui-ci. Aujourd'hui est un jour de grâce. Dixième mot sur la feuille. Aujourd'hui est un jour de grâce. Avant que le jugement commence. Dixième mot sur la feuille. Aujourd'hui. Parce que quand le jugement commence, il n'y aura plus l'occasion de salut. Il n'y aura plus le temps de la repentance. Le temps pour échapper au jugement, c'est avant que le jugement ne tombe. C'est avant. Paul, en 2 Corinthiens 6, verset 2, écrit ceci. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous pardonner de nos péchés. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous serez pardonnés de vos péchés, vous échapperez à ce jugement. Aujourd'hui est un jour de salut, Aujourd'hui est un jour de grâce. On ne sait pas si demain arrivera. On ne sait pas si nous, nous serons là demain. Ça arrive très vite. Mais les pleurs des rois, des marchands et des marins ne sont pas la seule perspective au sujet de la chute de Babylone. Il y en a un deuxième point. Il y a ceux qui se réjouissent. Verset 20. Ciel, réjouis-toi. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Avant d'aller plus loin, il y a un point suffisamment important à souligner ici, c'est qu'il n'y a aucun doute au sujet de celui qui est derrière la chute de Babylone. C'est un acte du jugement de Dieu. C'est Dieu qui fait justice. Dieu vous a fait justice en la jugeant. C'est Dieu qui juge. Et Jean, encore une fois, nous renvoie à l'Ancien Testament. Et cette fois-ci, dans le livre de Jérémie. Jérusalem, à l'époque, était tombée aux mains de l'armée babylonienne à cause de ses péchés. Beaucoup de Juifs sont partis en exil à Babylone. Et Jérémie écrit dans un livre les jugements que Dieu avait prophétisés sur Babylone. Et il donne ce livre à l'un des officiels du roi. En lui disant ceci, Jérémie 51, versets 61 et suivants. « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. » Ça parle d'une destruction totale. Les gens, en regardant en Apocalypse 18, regardent à la fin de l'histoire et ils voient ce système babylonien du monde qui vient en jugement. Et un ange puissant apparaît avec une pierre qui ressemble à une grande meule. Il la jette, la grande pierre, dans la mer en disant, ainsi, verset 21, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » La meule tombe et sombre jusqu'au fond de la mer. Cela symbolise la ruine totale, 11e mot sur la feuille, la ruine totale de ce monde. Dieu va détruire pour toujours le système babylonien de ce monde à cause de son idolâtrie, à cause de son péché. Dans l'histoire, bien sûr, cela ne s'est pas limité à la ville terrestre de Babylone. Cela s'est vu plus tard avec l'Empire romain, par exemple. Des attaques de barbares venant de l'Est ont amené la destruction de l'Empire romain. Le monde latin disparaît. Il est submergé par les Visigoths. Bien sûr, il y a aussi une allusion à la destruction classique dans l'Ancien Testament, qui est la destruction de l'Égypte lors de la délivrance du peuple d'Israël. L'armée de Pharaon a été détruite, anéantie sous la mer Rouge. C'est le modèle biblique du salut. Dieu écarte les eaux. Le peuple de Dieu passe au milieu, en sécurité. Et puis Dieu fait retomber les eaux sur les méchants. C'est vrai pour l'Égypte. On a lu une partie tout à l'heure en ce qui concerne Tyr. Ça a été vrai pour Babylone, pour Rome. Et à la fin de l'histoire, ça sera vrai pour le monde entier. Le peuple de Dieu entrera dans la gloire. Et le reste du monde sera jugé et puni. Néhémie dit ceci en Néhémie 9, verset 11, « Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. » Et Moïse, en Exode 15, verset 5, « Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. » C'est la même image. Mais l'ange poursuit. Et après avoir comparé le jugement à cette pierre qui est jetée dans la mer, il rajoute une éloge funèbre qui montre comment cela affecte tous les aspects de la vie. Douzième mot sur la feuille. Tous les aspects de la vie dans la grande cité Babylone. Tout ce qu'ils ont aimé, tout ce qui était plaisant à leurs yeux, est enlevé. Et on le voit dans les versets 21 à 23. Et on retrouve l'expression « ne plus » à six reprises. On ne trouvera plus chez toi. On ne trouvera plus la ville, on n'entendra plus la musique, on ne trouvera plus d'artisan, on n'entendra plus les bruits de la vie quotidienne, on ne verra plus la lumière, on n'entendra plus les sons de fêtes et de mariages. On va regarder en détail quelques-uns de ces points. Verset 22, nous disons, on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. La musique, 13e mot sur la feuille, la musique est une des bénédictions de la vie. Et je pense que beaucoup d'entre nous apprécient la musique, peut-être différentes formes de musique, mais on apprécie la musique. Aujourd'hui, notre génération, elle est quasiment obsédée par la musique. Mais la musique correctement utilisée est quelque chose de magnifique. Dans l'Antiquité, les joueurs de harpe et les chanteurs étaient toujours présents lors de manifestations, entre autres des manifestations joyeuses. Les trompettes annonçaient une grande cérémonie, ou annonçaient les jeux, par exemple. Maintenant, le jugement de Dieu tombe sur Babylone. Et toute musique disparaît. La musique est réduite au silence. Alors bien sûr, il y a un contraste évident avec ce que l'on va voir au chapitre 19, avec ce qui se passe au ciel. Le ciel qui est rempli de musique. Le ciel qui est rempli de louanges, de chants, des chœurs, des rachetés qui s'élèvent à la louange de Dieu et de Jésus-Christ. Mais Babylone qui est jugée, la musique n'est plus. C'est le jugement de Dieu. Toute la musique sur terre qui a glorifié l'idolâtrie et le péché de l'homme et toutes les choses mauvaises, toute cette musique sera réduite au silence. Une autre joie sur la terre, c'est l'expertise de l'artisan, de celui qui utilise son don pour construire une économie, pour fabriquer des choses. Mais toute cette vie d'activité, 14e mot sur la feuille, toute cette vie d'activité économique va disparaître. Verset 22, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Alors, il y a peut-être ici une allusion aux corporations. Au début de la lettre, de cette lettre d'Apocalypse, nous avons vu combien les chrétiens étaient pauvres et souffraient en Asie parce qu'ils ne pouvaient pas se joindre aux corporations d'artisans, ces corporations qui exigeaient l'adoration d'idoles ou l'adoration de César pour pouvoir faire partie de ces corporations. Et ces corporations étaient riches. Les chrétiens qui ne pouvaient pas se joindre aux corporations étaient pauvres. Mais ici, cela nous rappelle que cela ne va pas durer pour toujours. Même le son de l'artisan qui travaille va disparaître. On n'entendra plus non plus le bruit de la meule. Cela fait allusion aux besoins quotidiens. Le grain qui est broyé. On a une vie, on a des besoins aujourd'hui. On voit des personnes ici présentes, mais autour de nous, dans cette ville, dans cette région, dans ce monde, des personnes qui vivent, mais voilà. Tout cela disparaîtra. On n'entendra plus le bruit d'une meule. Verset 23, ce qui est pire, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, 15e mot sur la feuille, la lumière disparaîtra. Et encore une fois, on a un contraste avec le peuple de Dieu, avec le ciel. Qu'est-ce que Dieu promet à son peuple? Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, Nombre 6, 25. Et on verra en Apocalypse 22, verset 5, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Mais ici, Babylone, jugez, le monde Babylone, la lumière disparaîtra. C'est une image de l'enfer. C'est une existence maudite dans les ténèbres absolues. Aujourd'hui, on a des villes, même à l'époque, les grandes villes étaient éclairées, très éclairées. Mais là, la lumière disparaîtra. Les ténèbres règnent, des ténèbres palpables, nous dit un commentateur, qui symbolisent l'effusion finale et totale de la colère de Dieu sur ce monde méchant, séducteur et avide de plaisir. Et Babylone n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, il n'y aura plus d'amour, 16e mot sur la feuille. Il n'y aura plus d'unité, Il n'y aura plus de relations fidèles. Il n'y aura plus de romance. Parce que Babylone aura été jugée et envoyée en enfer. C'est un jugement terrible. C'est un jugement terrible. Et certains, bien sûr, se posent la question, mais pourquoi ? Pourquoi nous dit-on ici qu'il faut se réjouir ? La réponse n'est pas que le chrétien se réjouit par rancune contre ce monde mauvais. Ce n'est pas un plaisir de ce n'est pas, comment dirais-je, on peut pas prendre plaisir dans le fait que d'autres personnes soient jugées, ces autres personnes qui sont comme nous, des pécheurs par nature. En fait, nous pleurons le fait que des personnes connaissent le jugement de Dieu alors qu'elles ont eu l'occasion, l'opportunité de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi se réjouir ? La réponse, on l'a dans les versets suivants, la fin du verset 23. « Car tes marchands étaient dans les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Il y a certaines choses qui ne seront plus, mais il y a aussi d'autres choses. Il n'y aura plus d'idolâtrie, 17e mot sur la feuille. Il n'y aura plus d'idolâtrie, il n'y aura plus de séduction, il n'y aura plus de persécution. Et ces choses-là, nous les accueillons avec joie. Ces choses-là, nous les accueillons avec joie. Babylone était connue pour son idolâtrie et elle est jugée pour cela. La ville était grande, la ville était puissante, les gens adoraient sa grandeur, sa richesse. Cette Babylone la grande ou cette Rome, autant de gens, ce monde laïque dans lequel nous vivons aujourd'hui, ils ont interdit la connaissance de Dieu. Ils ont chassé la connaissance de Dieu. Ils ont chassé la louange de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit en Romains 1, verset 25 ? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et en plus, ils ont persécuté ceux qui voulaient adorer Dieu. Ils ont interdit, ils ont chassé la connaissance de Dieu. Cela se voit encore de plus en plus aujourd'hui. Verset 18, ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville ? Mais cette phrase, cette formulation dans la Bible, en principe, n'est utilisé que pour Dieu. Qui est semblable à toi ? Dans l'Ancien Testament, les prophètes ne cessaient de dire, mais qui est comme toi, Seigneur ? C'est toi qui es Dieu. Et là, les habitants de Babylone, les habitants de ce monde, disent, qui est comme Babylone ? Ils adorent Babylone. Ils adorent ce monde. Les gens de ce monde transforment les choses de la vie en objets d'adoration. Ils ne vivent pas pour la connaissance de Dieu. Ils vivent pour eux-mêmes, leur propre plaisir. Ils adorent ce monde. Et la clameur de cette louange de Babylone, « Qui est comme toi ? Qui est semblable ? Quelle ville était semblable à toi ? À la grande ville ?» Cette clameur reflète la clameur de notre humanisme laïque d'aujourd'hui. Le monde refuse à Dieu sa gloire et le monde attribue de manière insensée la souveraineté à l'homme. Se focaliser sur l'humanité comme étant le centre de tout et oublier Dieu, c'est le plus grand péché, dit un commentateur. Beaucoup se disent qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes, qu'ils sont là pour leur famille, qu'ils ne font rien de mal. Mais tout en disant cela, ces personnes oublient Dieu, ne tiennent pas compte de Dieu. Et c'est le plus grand péché, c'est l'idolâtrie. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de l'adorer parce qu'ils veulent être leur propre Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et il va juger toute idolâtrie. C'est une offense qui est faite à Dieu, au seul vrai Dieu, de penser que nous pouvons, nous, être des dieux. La deuxième chose que l'on peut voir ici, c'est que Babylone est jugée parce que toutes les nations ont été séduites par ses enchantements. Verset 23. Ce que Babylone avait fait, ce que le monde fait encore aujourd'hui, c'est de piéger les gens à accepter son immoralité. 18e mot sur la feuille. Les gens, les habitants du monde sont imbibés de sa décadence, de cette méchanceté, de cette idolâtrie, de cette débauche, de cette immoralité. En lisant ces paroles, vous avez peut-être pensé aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a parlé d'une meule, Luc 17, versets 1 et 2, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » C'est une chose terrible de mener d'autres personnes dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Mais ici, c'est toute une culture, c'est le monde, c'est Babylone qui séduit le monde, qui séduit les hommes. Et la colère de Dieu est grande contre ce monde. Les chrétiens pleurent parce qu'ils voient d'autres souffrir parce que Dieu les juge. Mais nous nous réjouissons quand Dieu détruit une institution qui fait la promotion de l'immoralité, qui fait la promotion de la méchanceté. Et à la fin, tout cela sera, la destruction sera totale. Mais le peuple de Dieu, au ciel et sur la terre, se réjouit aussi de ce que Dieu a mis fin aux souffrances des croyants. 19e mot sur la feuille. Qu'au dernier jour, Dieu mettra fin aux souffrances des croyants qui ont vécu dans le monde babylonien. Et l'on a trouvé chez elle, verset 24, le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Nous avons dit que c'est triste. Ce sera triste pour Babylone quand il n'y aura plus de musique, plus de bruit, de vie quotidienne, plus de lumière, plus de romance, plus d'amour. Quand Dieu va juger le monde, tout cela est tragique. Mais ce qui n'est pas tragique pour le peuple de Dieu, c'est le jour où il n'y aura plus d'idolâtrie, qu'il n'y aura plus de séduction de péché, qu'il n'y aura plus de persécution. Ciel, réjouis-toi. Et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. C'est la justification, la légitimation du peuple de Dieu. Le monde aujourd'hui méprise le peuple de Dieu et l'a fait tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, si on parle de Dieu, si on parle de la Bible à nos voisins, à nos collègues ou à nos amis, si on cherche à honorer Dieu, le monde ne va pas nous louer pour cela. Le monde ne va pas nous dire « Ah, c'est bien, c'est très bien ». Non. Le monde va persécuter les chrétiens à cause de ses vertus. Mais à la fin, Dieu va justifier son peuple. Et ce jugement est pour le chrétien pour montrer qu'il est accepté, non pas à cause de ses mérites, bien entendu, mais à cause des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a fait justice en la jugeant. Pour terminer, trois leçons. La première, nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre, 20e mot sur la feuille, nous devons apprendre comment bien utiliser les choses de ce monde. Parce que nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans la Babylone. Nous travaillons, nous avons des amis, des voisins, tout cela fait partie de Babylone. Et nous devons donc apprendre à utiliser les choses de ce monde de la bonne manière, non pas de façon idolâtre, non pas comme le monde, non pas d'une façon matérialiste, en ne vivant que pour les choses de ce monde, non, mais à utiliser les choses de la bonne manière. Mais une des erreurs, et beaucoup de commentateurs la font, c'est de penser qu'on ne doit pas posséder de biens, ou de biens luxueux, qu'il faut s'habiller très simplement, qu'il ne faut pas avoir un compte en banque bien rempli, qu'il faut une voiture d'occasion qui passe à peine le contrôle technique. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si Dieu nous donne de bonnes choses, acceptons-les avec reconnaissance. Acceptons-les, ces choses, avec reconnaissance. Mais ne les adorons pas comme le monde. Ne vivons pas pour ces choses. Soyons de bons gestionnaires qui utilisent les choses de ce monde pour le bien d'autres personnes, pour le bien en particulier de l'Église, pour répondre aux besoins de son peuple. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 2, versets 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Si Dieu nous accorde les biens de ce monde, ne soyons pas remplis d'orgueil à cause de ces biens, parce que Dieu nous accorde ces choses dans sa grâce. Soyons humbles, soyons de bons gestionnaires et soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous donne. Vivons d'une manière qui honore Dieu dans toutes nos circonstances, comme l'apôtre Paul a pu écrire, Philippiens 4, versets 12 et 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui m'a fortifié, par Christ. » Le vrai trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le reste ne vienne pas prendre sa place. La deuxième leçon, c'est que nous ne devons jamais douter de la certitude du jugement de Dieu. 21e mot sur la feuille. La certitude du jugement de Dieu sur ce monde. Quelques siècles après la rédaction du livre de l'Apocalypse, la ville de Rome était encore debout. Et beaucoup allaient dire, Rome, finalement, ne va jamais être détruite. Tout ce qui est dit est faux. Mais la patience de Dieu est finalement arrivée à son terme. Et en l'an 410, après Jésus-Christ, le roi des Visigoths, Alaric Ier, a pris la ville de Rome, il l'a pillée et il l'a détruite. Et l'Empire romain s'est écroulé. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en l'an 410, les chrétiens étaient bouleversés parce que Rome avait été détruite. Et un des chrétiens de cette époque, un pasteur et un théologien, était saint Augustin, auteur de La Cité de Dieu. Et quand on vient lui apporter la nouvelle de la chute de Rome, voici ce qu'il dit dans un de ses messages. Il dit « Pourquoi te troubler ? Les calamités publiques agitent ton cœur comme était agitée la barque où dormait le Christ. Voilà bien, ô homme sensé, voilà la course du trouble de ton cœur. Cet esquif où sommeillait le Christ est un cœur où la foi est endormie. Que t'apprend-on, en effet, chrétien, que t'apprend-on de nouveau ? Sous le règne du christianisme, le monde est dévasté, le monde touche à sa fin. Ton maître ne l'avait-il pas dit que le monde serait dévasté ? Ne t'avait-il pas dit que le monde aurait une fin ? Tu le croyais quand il le prédisait, et maintenant que se vérifient ses prédictions, tu te troubles ? Ainsi la tempête gronde dans ton cœur. Prends donc garde au naufrage. Réveille le Christ. » Et c'est la réalité. Tout royaume babylonien de ce monde, tout au long de l'histoire, va tomber un jour. Toute civilisation qui ressemble à Babylone, comme la nôtre, va tomber sous le jugement de Dieu. Et nous ne devrions pas être effrayés. Oui, il y aura des tumultes. Il y aura des terreurs. Il y aura des tribulations. Mais si nous sommes à Christ, nous connaissons celui qui a vaincu le monde. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre défenseur en qui nous pouvons avoir confiance. Nous ne pouvons pas douter de la certitude du jugement de Dieu sur ce monde. Mais la troisième chose, la troisième leçon, c'est que nous devons réaliser qu'au milieu de ce monde, de cette Babylone qui court vers son jugement, quelque chose de grandiose se passe. 22e mot sur la feuille. Quelque chose de grandiose se passe. Christ bâtit son Église. Christ bâtit son Église. Il appelle des âmes au salut. Comment être sauvé ? En reconnaissant son péché. En reconnaissant son besoin d'être délivré de ce monde, d'être libéré de ses tentations. Libéré de son péché, délivré, lavé, en demandant à Dieu de nous pardonner, de nous donner la vraie vie par la foi en Jésus-Christ. Christ bâtit son Église. Il appelle des âmes à la foi, à être délivrées du jugement. Le monde aujourd'hui s'en moque. Mais c'est une œuvre grandiose qui se passe aujourd'hui et qui va durer pour l'éternité. C'est peut-être, d'une certaine manière, la seule institution, si on peut dire, de ce monde qui va traverser le jugement pour entrer dans la gloire. Une institution qui existe encore, qui existe aujourd'hui et qui existera dans l'éternité, l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu garantit que cette œuvre, et cela va se réaliser. Il a manifesté tout au long de sa parole, et en particulier dans ce livre, sa souveraineté, sa puissance. Et ce sont ces attributs qui vont garantir que l'œuvre qu'il a commencée en appelant des âmes à être réconciliées avec lui par la repentance et par la foi en Jésus-Christ, il va garantir que cette œuvre-là, il va la mener à la perfection pour le jour où l'agneau, où le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son épouse, l'Église, pour être avec lui dans la gloire. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'Église, est préparée pour le jour des noces avec l'agneau. En sachant donc ces différentes choses, même si nous vivons dans le monde, même si nous utilisons les choses de ce monde, ne vivons pas pour ces choses, mais vivons pour le royaume de Dieu. Cherchons premièrement, 23e mot sur la feuille, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Regardons à Dieu, regardons au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas jugé. Il est passé de la mort à la vie. Croyons donc, venons au Seigneur Jésus-Christ. Croyons en lui, regardons à lui, vivons pour lui. Et que le but de notre vie ne soit pas de vivre comme le monde autour de nous, ce monde tellement séducteur, mais ce monde qui ne veut que notre perte. Vivons, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu nous accordera. Dieu nous accordera toutes choses avec son Fils. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.